Ici Radio Terre. Radio Terre, ici Radio Terre.
Allô les rats ? Ici la Terre.
Bonjour, bonsoir, vous êtes bien sur Radio Galère, vous écoutez l'émission Ici Radio Terre.
L'émission qui déconstruit la construction.
On va vous parler de construction, de bâtiments, d'habitation, de logements, bref, des façons de construire et d'habiter, de leurs impacts sur l'environnement et la société. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur notre cinquième épisode de notre émission Ici Radio Terre. Dans cet épisode, nous revenons sur la troisième édition du festival La Chignole qui a eu lieu du 17 au 24 mai dernier. La Chignole, c'est un collectif marseillais qui souhaite proposer des espaces de transmission féministe où se retrouver et faire ensemble afin de dépasser les freins encore trop présents et de mettre en avant la culture de la débrouille, de l'autonomie et de l'entraide. Ce sont des valeurs que porte aussi notre association Rat de Terre et qui nous tiennent à cœur. Et on aime transmettre, se dire que tout est abordable à tous. Et on organise du coup très régulièrement des ateliers ou chantiers participatifs dans cette dynamique afin que chacun et chacune puisse se retrouver et retrouver de l'autonomie dans l'acte de bâtir en se réappropriant des savoir-faire. Ce festival fut l'occasion pour nous de proposer une panoplie d'ateliers en mixité choisie. Certains portés par les membres de l'association, comme la maçonnerie terre crue ou la fabrication d'adobe. Et cela fut aussi l'occasion de rendre notre espace disponible pour accueillir d'autres personnes souhaitant proposer des ateliers, comme Maëlle qui a initié un grand nombre de participantes et de participants en réalisant un muret maçonné en pierre et en chaux. Ou encore Lisa qui a co-encadré avec nous un atelier de découverte autour des enduits terre. C'est dans ce contexte que nous avons décidé de faire une prise de son avec l'aide de Coco, qui a passé la journée avec nous et qui a réalisé les interviews que vous allez entendre. Vous y retrouverez la parole des femmes venues découvrir ou redécouvrir des pratiques autour de la Terre. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute.
Donc, je m'appelle Lisa, je suis artisane enduiseuse et aujourd'hui je réponds avec Rat de Terre à un atelier dans le cadre du Festival de la Chignole. Organisé à Marseille toute cette semaine et le week-end dernier, un festival sur les savoir-faire et les techniques art, artisanat et même plus large, si je me trompe pas.
Ouais, c'est ça.
Et un festival donc féministe. Et on trouvait que ça avait du sens de répondre ensemble puisqu'on est artisanes toutes les deux à des échelles différentes, plutôt donc la briqueterie sur les adobes, les briques. Et puis moi sur la partie enduit, en terre crue. Je suis architecte de formation, j'ai travaillé 3-4 ans en agence d'archi. Au sortir des études, je savais que j'allais pas forcément en faire mon métier, en tout cas la conception c'était quelque chose qui me semblait parfois trop éloigné de la construction et l'assemblage des matériaux. Donc j'ai quand même travaillé en archi, où j'ai découvert pas mal de choses, mais très peu de projets en bio et géosourcé, donc avec très peu d'emplois de la terre crue. Et en sortant des études, j'ai participé à un chantier pendant 8 mois en Gambie, où on a travaillé plusieurs techniques constructives, la pierre sèche, la terre crue, la chaume, la charpente bois et la chaux. Et ça a été un premier volet quand même assez grand, où j'ai pris contact avec la terre crue, terre très argileuse là-bas. Et puis c'est après ça en fait que je me suis dit bon, je vais quand même retourner en agence d'archi. J'y suis allée pendant 3-4 ans avec du chômage entre temps à faire des projets à plus petite échelle. Et je me suis dit, enfin j'ai passé ma dernière année d'archi pour aller jusqu'au bout du cursus, faire la HMO et écrire un peu aussi sur le fait que j'avais plus forcément envie d'être architecte, mais peut-être plutôt dans la fabrication. Et donc je suis sortie de tout ça et je suis arrivée à Marseille. Et à Marseille, j'ai rencontré une autre team qui travaille sur les bio et géosourcés, anatomie d'architecture, Alice et Emmanuel, qui m'ont fait découvrir les enduits appliqués avec la terre crue. Et ça a été pour moi un moment assez révélateur. J'avais envie en fait de me retrouver dans la peau qu'on voit et qu'on ressent d'un bâtiment à l'intérieur, et être celle qui protège et en même temps tout l'aspect finition.
Et d'ailleurs, c'est dans le cadre d'un chantier, justement, avec Manu et Alice, on s'est rencontrés avec Lisa. Et du coup, c'est en faisant des enduits, d'ailleurs, il me semble, sur un bâtiment à Marseille.
Pendant que tu étais, toi, en formation.
Ouais, aussi. Ouais, du coup, pour parler un petit peu de mon parcours, moi, je me suis formée à l'architecture d'intérieur. Et j'ai exercé quelques années dans des agences. Et pareil, j'en avais un peu marre d'être derrière un bureau, surtout. J'avais envie d'être plus dans le feu de l'action. Et je suis partie un an à l'étranger. J'ai fait un voyage en Amérique du Sud. Et c'est là-bas que j'ai découvert la terre crue. Pour la première fois, en participant à des chantiers sur place. Et ça a été un peu la révélation, ce matériau que je connaissais pas du tout. Et que j'ai trouvé assez dingue. Et du coup, mon retour de voyage, j'ai commencé un peu à cogiter, à continuer à bosser en archi, mais voilà, je sentais que j'avais envie de tester d'autres trucs. Et du coup, j'ai fait une formation en éco-construction, donc sur 9 mois au sein du Gabion. C'est là où j'ai rencontré aussi l'équipe avec qui on a monté le projet de la briqueterie, du coup, Romain, Yanis et Vincent. Et puis, de fil en aiguille, voilà, ça s'est construit petit à petit.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. N'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Et du coup, moi j'avais envie de revenir sur le festival de la Chignole et un peu le fait qu'on soit là entre femmes,
ouais,
et minorité de genre aussi. Et je me demandais, vous, dans vos parcours,
et dans la formation. Peut-être on peut commencer par la formation, puis peut-être aussi les expériences professionnelles, ça veut dire quoi en fait être femme dans le bâtiment, parce qu'en fait ça reste un espace microscopique et hyper atypique et particulier, la terre crue, mais ça reste du bâtiment. Mmh. Et je sais pas si vous avez envie de partager là-dessus.
Ouais, moi c'est assez marrant parce que du coup, de par mon parcours où au départ j'ai fait plutôt de l'architecture d'intérieur, il y avait beaucoup de femmes justement parce que ben, c'est un peu la dernière étape, on va dire, dans les projets de construction, un peu la finition à décoration. Du coup là c'est un milieu assez féminin. Et quand je me suis réorientée là avec le Gabion, du coup, en l'occurrence dans ma session de formation, j'étais la seule femme. On était une dizaine, on n'était pas très nombreux, mais ouais, c'était pas du tout le même contexte. Et bizarrement, enfin, les personnes qui bossent avec la terre crue, il y a une majorité plutôt de femmes. Et je pense que toi, Lisa, tu peux bien en parler justement de ça.
C'est vrai que bah, je te rejoins déjà sur la partie architecture d'intérieur. Moi, j'ai fait de l'architecture seule, enfin juste l'architecture, quoi. Et il y avait déjà plus de femmes qui allaient dans ce milieu-là, de plus en plus. Mais aussi beaucoup de femmes qui, en sortant d'archi, prennent un autre chemin en proportion par rapport aux hommes. Plus de femmes qui rentrent à l'école, mais celles qui sortent de l'école, généralement, prennent un autre chemin. Donc en fait, après, en agence, on se retrouve avec plus d'hommes que de femmes. Et en fait, en me réorientant, j'ai exploré plusieurs formations et il y en a une qui a retenu mon attention. Ça s'appelle les ateliers nomades, qui d'ailleurs ont lieu encore cette année. La première session était il y a 2 ans, organisée par les grands ateliers et portée par les grands ateliers et organisée par 4 artisanes. Isabella Breda en Italie, Sylvie Wheeler à Montpellier, Anka Nicolaescu à Bordeaux et Irmela Fromm en Allemagne. Toutes avaient et ont 20 à 30 ans de métier dans l'enduit, vraiment l'enduit en terre et de la chaux aussi. Et en fait, elles avaient organisé un événement aussi porté par les grands ateliers qui s'appelle Terre Femmes et Savoir-Faire, justement parce que avec plusieurs sessions de formation aux grands ateliers, elles s'étaient rendues compte qu'il y avait beaucoup de formatrices. Enfin, il y a une possibilité de faire venir des personnes, des artisanes pour former, et que donc elles pouvaient même, au-delà de cet événement, en faire une formation plus longue, certifiante. Et donc je suis tombée sur cette formation en 4 étapes avec chacune des artisanes, et ça, enfin moi en tout cas, c'est grâce à elles vraiment que je me suis identifiée et projetée. Parce que déjà, elles avaient beaucoup d'expérience, et de deux, c'était quand même des femmes dans le bâtiment qui ont fait leur place il y a plus d'années que ça encore que nous aujourd'hui. Et c'est vraiment grâce à elles, je pense, ça aurait été différent, ça aurait été peut-être, je sais pas, je me serais quand même lancée si ça avait été des hommes, mais en tout cas, ça a fait grand... Enfin, moi, ça m'a pas mal bouleversée de voir leur parcours, de voir leur indépendance et leur liberté dans tout ça. Et c'est grâce à cette formation que c'est devenu aussi des amis, qu'elles m'ont mis sur des chantiers. Et du coup, je me suis retrouvée très vite sur des chantiers qu'avec des femmes, dans un milieu, dans le bâtiment, avec beaucoup d'hommes autour de nous. Toujours curieux de voir qu'on était des femmes à faire ça, et en plus la terre crue. Donc il y avait un double enjeu face à des hommes. Le côté terre, on connaît pas, c'est quoi? Il n'y a pas du ciment dedans? Et le côté « Ah, mais vous êtes des femmes, mais c'est plutôt un métier d'homme !» Et bah non, vu qu'on est plusieurs femmes sur chantier. Donc pour moi, ça a grandement participé à mon élan d'y aller, même si j'étais assez convaincue que l'enduit, c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Et aussi parce que typiquement, depuis que je suis petite, bah, ma tante et ma mère, elles font beaucoup d'enduit. Et elles retapent des maisons. Et en fait, depuis petite, j'ai vu beaucoup de chaux, du béton ciré aussi. Et elle ne connaissait pas la terre crue, donc aujourd'hui elle découvre ce matériau, mais j'ai toujours eu un contact avec la dernière peau et la peau des femmes, donc tout ça semble un peu.
Et c'est quoi le fait de participer à la chignole, qu'est-ce qu'on a envie de se dire sur l'importance aussi de la transmission, de la place des femmes aussi comme formatrices, parce que c'est assez rare. Et aussi sur des mini-modules qui servent à prendre confiance en soi, à se rendre compte qu'en fait on est capable et d'encadrer et d'apprendre à faire des techniques et de se réapproprier des espaces et des savoir-faire qui nous sont plutôt pas offerts dès le début, quoi. Et je sais pas si vous avez envie de parler un peu de ça, du partage de la formation.
Ben oui, ce que tu disais, comment est-ce qu'on s'insère là-dedans, comment est-ce que ça valorise aussi des personnes et ça donne confiance en soi, c'est vraiment tout ce que j'ai ressenti quand on m'a transmis. Je me suis sentie à l'aise parce que j'étais dans un contexte dans lequel on pouvait s'identifier. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu dans ces métiers-là, que ce soit femmes, il y a vraiment un besoin de reprendre un peu de contrôle et de maîtrise aussi sur notre capacité à faire, nous aussi. Et le fait de transmettre, de pouvoir s'identifier, de pouvoir nous aussi toucher à des outils, à des matériaux et se sentir capable, ça montre que ces métiers-là, en tout cas, ils s'ouvrent beaucoup et qu'on peut, même si on est plus ou moins avancé dans ces connaissances-là, en fait, ce sont typiquement la terre crue, c'est un matériau quand même qui permet, que ce soit avec les mains ou les outils ou avec au départ peu de connaissances, de pouvoir toucher, de pouvoir vraiment s'approprier en fait un matériau. Ce qui n'est pas forcément toujours évident avec tous les autres matériaux, mais qui pourtant est possible, et aujourd'hui même dans les autres matériaux, que ce soit le métal, le bois, la pierre et d'autres, on voit quand même une propension de femmes plus importante à se l'approprier. Et donc en fait on peut prendre la casquette de celui qui touche et qui pratique, de celle ou celui qui touche et qui pratique, mais aussi celui qui ou celle qui transmet, parce qu'en fait on peut aller d'un côté ou de l'autre sans forcément avoir énormément de connaissances ou de savoir. C'est inclusif de nature, ce matériau. Par nature, il est vraiment inclusif. Et je pense que c'est ça aussi qui fait sa force, qui nous permet de se sentir légitime, en fait, à transmettre, à apprendre, toucher, écouter, sentir. Enfin, il y a tous les sens en éveil aussi. Et ça, pas toutes, on est dotées des mêmes sens, mais il n'empêche qu'il y a des sens de base qui sont propres à ce matériau-là.
Le contexte aussi du festival La Chignole, enfin, est hyper intéressant. Ça permet de se sentir aussi, en tout cas pour ma part, peut-être plus à l'aise de transmettre avec des femmes. La formation du Gabion, il y a quand même eu des moments qui étaient un peu complexes, où on était tous là en tant qu'apprenants, donc potentiellement tous à la même échelle. Et le fait d'être la seule femme au milieu de tout le monde dans un contexte de chantier, très souvent, chacun y va de sa petite recommandation à te montrer la technique, prendre les outils des mains, comment il faut faire, etc. Et d'être entre femmes, je trouve qu'il y a aussi une autre dimension, une autre écoute, enfin une autre approche.
Posture.
Ouais, voilà, ce rapport un peu d'égalité qui bascule, quoi. Et du coup je trouve ça chouette d'avoir des endroits comme ça pour partager ça aussi, à la fois pour les personnes qui viennent participer, mais aussi finalement pour nous qui proposons aussi des ateliers. Je trouve que c'est un double enjeu un peu
dans le fait d'être finalement un peu dans un entre-soi où on ouvre moins à, enfin, un entre-soi qui est pas péjoratif, pas négatif. Y a beaucoup plus de bienveillance dans la posture et d'écoute et de regard pour valider que c'est ok, que la position est bonne, que on dépasse pas, on pend pas plus la parole que d'autres et que chacune puisse s'exprimer. Et un cadre comme ça, c'est vrai que c'est pas forcément tout le temps rendu possible quand on est confronté à plein de personnes, dont des hommes, et qui vont avoir plus de facilité à apprendre.
Et je trouve qu'il y a aussi beaucoup comment on s'adapte, parce que le monde du bâtiment, il n'est pas hyper bien conçu pour les femmes. Le port des charges, enfin, il y a pas mal de choses comme ça qui sont des fois plus compliquées, même les outils en fait, qui ne sont pas forcément bien dimensionnés, etc. Et du coup, c'est aussi trouver comment on s'adapte tout ensemble, réfléchir à comment on fonctionne. Enfin, je sais que toi, par exemple, tu as des outils que tu as créés toi-même pour que ça soit plus ergonomique, etc. Et je trouve que c'est aussi une discussion pour les femmes dans le bâtiment à réfléchir comment on peut se réapproprier aussi des outils, des méthodes, des fois faire différemment parce qu'il y a des choses en fait qui ne sont pas forcément adaptées à nos gabarits ou des choses comme ça.
On ne part pas toutes des mêmes bases, que ce soit vis-à-vis d'un matériau, d'un outil, d'une confiance. Enfin, il y a tellement en fait de facteurs qui peuvent nous empêcher de faire que de se retrouver ensemble en mettant un cadre super bienveillant où on montre aussi par des choses simples qu'on peut juste toucher et juste ressentir sans forcément tout de suite se projeter sur un chantier, mais déjà juste cet espace en fait en sororité avec beaucoup de respect, je crois que ça donne un peu de projection pour tout le monde et ça donne l'envie, ne serait-ce que l'envie.
Ouais, ça ouvre le champ des possibles aussi à se dire que il y a certains univers extérieurement, ils nous paraissent peut-être moins accessibles et ça permet de leur donner une dimension justement autre et montrer que c'est possible, voilà, et que c'est aussi venir découvrir et c'est aussi un peu l'objet du coup de la chignole.
Voilà. Du coup, tu as envie de nous raconter un peu ce que ça va être l'atelier de cet après-midi, parce que là, on attend 6 participantes, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Et alors, comment
on
ça
attend
va
se dérouler ? Un peu comme j'ai appris, finalement. L'idée, c'est d'avoir quand même un temps d'échange entre nous, poser justement un peu où on en est chacune, qui on est, qu'est-ce qu'on vient chercher, ou pas d'ailleurs, parfois on peut ne pas savoir. Mais pourquoi on est là, et voilà, se présenter. Et un premier contact avec la matière, aussi les bases, qui connaît, comment, ça rappelle quels souvenirs. Toucher la matière, pouvoir peut-être un peu la modeler et comprendre un peu comment elle est composée. Pour la base un peu plus globale, qui est en plus commune à Léa et moi, c'est quand même quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Donc un peu l'état des lieux de ce matériau. La terre, c'est quand même quelque chose qu'on peut modeler, on peut en faire des boules, on peut en faire des formes. Et ça déjà, juste ne serait-ce qu'avec ses mains, en fait, de pouvoir avoir la maîtrise même d'un petit objet, c'est assez intéressant. Donc développer un peu cette partie contact, toucher, faire une sphère.
Et le côté vraiment sensoriel, un peu le premier contact quoi, avec la matière.
Éveiller ses sens, donc par le regard, le toucher, le modelage. La sentir, voilà. Dans un second temps, donc on aura plusieurs terres différentes à ce moment-là pour montrer aussi que la terre est très hétérogène selon là où on l'accueille et encore plus parfois à un endroit, l'un à côté de l'autre, on se rend compte qu'il y en a deux différentes, sentir un peu les éléments qui la composent. Et ensuite, tranquillement, on se dirigera vers l'endroit où il y a l'atelier. Ce sera l'objet aussi d'avoir un peu des retours sur ces discussions qu'on a pu avoir là et les premiers ressentis. Et de l'autre côté, on a construit avec Léa un support qui permettra aussi aux participantes de voir plusieurs techniques d'enduit sur de la canisse, donc plusieurs étapes de l'enduit. Donc l'idée, c'est d'abord de faire un petit tour sur une table où on a disposé des terres différentes, des sables, des fibres, de voir en fait comment on compose un enduit. Son application, enfin une fois qu'on a vu le matériau terre, de voir son application en enduit et comment on fait pour identifier une terre propre à l'enduit et comment ensuite on la formule et comment même en formulation on peut arriver à des textures, des couleurs très différentes, très variées. Donc un peu cette discussion autour de l'application de l'enduit et pourquoi on fait ça et voilà. et ensuite que chacune puisse faire un mélange et à partir de ce mélange appliquer, donc de l'application et à l'outil, à la main, un peu comme on veut aussi, se sentir libre de faire. Parce qu'on peut voir quand même qu'il y a du bleu et du orange dedans, donc ça montre aussi qu'on peut avoir plein de couleurs différentes.
Ça c'est l'inverse.
Et ça c'est l'inverse. Une plus rouge avec quand même des traces de bleu et de gris. Donc en tout cas quand on pense terre, on se dit marron. En fait on voit que c'est pas une formule quoi, encore une fois, il y a plein de couleurs différentes. Ensuite on a les fibres. Là il y en a deux exemples. La paille de riz, qu'on trouve beaucoup en Camargue, donc dans la région. Et ici, une fibre assez étonnante que Radeter a mis à disposition.
C'est de la massette, ce qu'il y a un peu sur les roseaux qu'on trouve au bord des rivières. Et en fait, quand on les ouvre, là j'en ai ouvert juste un et ça a fait tout ça, donc ça fait vite beaucoup de fibres. Et ce qui est intéressant avec cette fibre, c'est que si on essaye de la mettre dans l'eau, elle se mouille pas, un peu comme je sais pas, les poils de chat ou les choses comme ça. Et donc ça va rajouter des propriétés dans nos mélanges. Donc par exemple, quand on veut faire des enduits de finition, si on est dans des zones humides et que c'est un petit peu plus sollicité, si on met ce genre de fibre dedans, ben, ça va un peu plus le fermer et du coup ça va lui rajouter une résistance aussi un peu différente. Donc juste avec des fibres végétales, on peut déjà aussi adapter et donner des propriétés à nos mélanges.
Et après, on a les sables. Là, par exemple, on en a un jaune. Et là, on en a un blanc. Et là, on en a un peu rose. Donc, ça, c'est vraiment les éléments qui peuvent composer nos enduits. Et c'est aussi à mettre en parallèle avec les supports. Donc, sur quoi on enduit. Et en fonction de ça, eh ben, on va devoir faire des enduits plus ou moins épais.
Très bien. Et même quand ça passe plus, après, ben, vu que là, il est très fin, je peux presque mettre dans son tamis. Il y en a encore qui vont passer. Qui vont sortir. Et après, la dernière, on peut remettre dans son tamis. Et...
Parce que l'argile ça colle, mais pourquoi on voudrait une terre qui colle moins?
Ça, on voit bien quand on fait des briques, justement, parce qu'on a un moule avec des dimensions du coup qu'on définit. Et si notre terre elle est très argileuse, et ben en fait, quand ça va sécher, la brique elle va rapetissir, elle va se rétracter, en fait, la terre va diminuer en quelque sorte, et du coup, à la fin, par exemple, si tu as décidé d'une dimension, ben, tu n'auras plus la même dimension. Du coup, avec l'enduit, ça peut être pareil. Il va se rétracter, donc ça va fissurer, ça va faire des choses.
Ça peut tomber.
Et du coup, le sable, ça permet de rajouter des grains.
Ouais.
Et donc, du coup, entre tes argiles, en fait, tu vas avoir de l'eau qui va se mettre et ça va faire de l'espace. Et du coup, les grains vont venir se mettre en fait dans cette zone-là. Et du coup, quand l'eau va s'enlever, ils pourront plus se rétracter. Et donc du coup, les grains, ils auront pris la place et donc ça va éviter d'avoir ces effets un peu de retrait et de fissuration.
Tu peux le faire, allez,
je t'aide.
Bah, ouais. Comme tu veux, hein. Tu vois, c'est trop bien.
On va rajouter un petit peu d'eau
parce que...
Tu veux essayer?
Ah ouais, moi j'adore.
Ça... Bah, je m'en fous. C'est quoi la sensation?
Et après...
Si vous arrivez à décrire... Je sais pas... C'est comme si tu avais... Tu sais comme quand t'es un peu à la plage et que t'es assise au bord de l'eau et qu'il y a un peu de sable. Mais c'est plus gadou là.
Dans les lacs des fois.
Ouais, plus ouais.
Dans les lacs des fois ça fait ça. D'ailleurs c'est à l'odeur du lac.
Quoi. Ah ouais, c'est à l'odeur du lac.
Ah ça vraiment... Moi je trouve ça à l'odeur du lac.
Ouais. C'est vrai.
Pas mal.
C'est plus un peu genre régressif.
On va pouvoir aller avec Lisa pour
Attends, transe.
Je pense que je vais me créer un coin dans mon appart où je mets un truc comme ça.
Alors, qu'est-ce qui t'a amené ici?
Alors, moi je suis là avec des copines de Berlin et nous avons participé à la chignole parce que nous avons fait aussi un atelier de linogravure hier matin. Donc nous profitons aussi à participer des autres ateliers.
C'est vous qui avez mené l'atelier?
Oui, c'est ça.
C'est cool?
Oui, c'était trop cool. Oui. J'ai bien aimé, ça s'est bien passé. Oui, c'était super.
Et être dans le rôle de participante et d'encadrante, ça fait du bien de...
Oui, ça fait du bien, oui. Je pense que ben, des deux rôles... Je profite beaucoup parce que d'animer quelque chose, c'est aussi très... Alors, on apprend aussi beaucoup en expliquant les choses à des autres et tout. Alors, c'est bien d'être dans les deux rôles, je dirais.
Et la terre, t'avais déjà travaillé la terre ou pas?
Non, pas beaucoup, non. Ça fait longtemps quand j'étais enfant, mais là, non, je dirais pas.
Ça t'a plu le début de l'atelier avec
Oui, le oui, c'était super. Oui.
Pourquoi je l'en fais tout, c'est bientôt la fin. J'attends plus rien d'elle, moi. J'attends plus rien d'elle. J'ai pensé une toute la semaine, pas un coup de vie sur mon tel. Mais bien manger, n'attend plus rien de l'amour, la plupart n'y croient plus. On est juste en fin de vingtaine, et c'est que maintenant tu quittes la rue. J'ai du mal à croire qu'avec les femmes, on a déjà tout vécu. En rappelant sur mon cœur noir, si je parle trop, je me sens dévêtu. Tellement ambitieux que je préfère rester seul. On vit jamais trop haut. Visualise l'avenir sans mauvais oeil. Besoin de personne pour me dire
ce qu'il y a. Enlever la musique.
Ouais, mais c'est bien aussi avec la musique.
Loin d'ici, on s'était dit tant de promesses au début. Oh, plus profond de moi, mais laisse-moi partir.
cette fois.
Parfois j'ai l'impression que le monde m'appartient. Puis parfois j'ai l'impression que c'est bientôt la fin. J'attends plus rien d'elle, non, j'attends plus rien d'elle. J'ai pensé à une fille toute la semaine, pas un signe de vie sur mon tel. Mes gars, mon jean, n'attendent plus rien de l'amour, la plupart n'y croient plus. On est juste en fin de vingtaine et c'est que maintenant qu'on quitte la rue. J'ai du mal à croire qu'avec les femmes on a déjà tout vécu. Un drap blanc sur mon cœur noir, si je parle trop je me sens dévêtu. Tellement ambitieux que je préfère rester seul. On vit jamais trop haut. Visualise l'avenir sans mauvais œil. Besoin de personne pour me distraire ou pour me forcer à mentir à moi-même. Je me sens entier dans la paix, pas besoin de problème. Ça fait longtemps que j'ai pas dit je t'aime. J'sais même plus si j'en suis capable. J'attendais un signe du ciel, puis quand il est tombé, je crois que je suis tombé aussi. Et quitte à me faire un film, j'aurais dû choisir un bien meilleur synopsis. J'ai jamais trahi un ami, mais par contre j'ai trompé des femmes que j'aimais, pour qui j'aurais pu donner ma vie. Des regrets dans un taxi nu, cherche encore l'alchimie. Et bien sûr que j'ai plus peur de l'avenir. Je sais ce que c'est que tomber, je sais ce que c'est que se relever. Et bien sûr que j'ai plus peur de l'avenir. Je sais ce que c'est que tomber, je sais ce que c'est que se relever. Et si tu m'as laissé partir, je vais pas faire demi-tour, j'ai déjà trop donné. C'est vrai que j'ai tendance à m'enfuir, que c'est un concept flou qui m'a trop fait saigner. On s'est toujours dit que c'était pas pour nous, qu'au final un des deux souffrait toujours. Mon espoir a un certain arrière-goût, pourtant j'ai jamais cru au hasard. Moi je crois que au rendez-vous, le contraire d'aimer c'est la peur. Et bien sûr qu'on a peur dans nos rapports. Si Dieu n'y arrive pas, comment je pourrais mettre tout le monde d'accord? Pourquoi tu cherches à plaire? Pourquoi vouloir être aimé tous? Tu sais, pour fuir vos soirées, j'ai trouvé plein d'excuses. J'irai rejoindre cette fille que je trouvais tellement douce, mais qu'une fois énervé, j'ai plus jamais reconnu. Un jour t'es tout et le lendemain t'es plus rien. Tu peux en vouloir à personne, non c'est juste humain.
On s'était dit tant de promesses au début, au plus profond de moi. Mais laisse-moi partir cette fois.
Et bien sûr que j'ai plus peur de l'avenir. Je sais ce que c'est que tomber, je sais ce que c'est que se relever. Et bien sûr que j'ai plus peur de l'avenir. Je sais ce que c'est que tomber, je sais ce que c'est que se relever. Si tu m'as laissé partir, je vais pas faire demi-tour, j'ai déjà trop donné. C'est vrai que j'ai tendance à m'enfuir, que c'est un concept flou qui m'a trop fait saigner.
Laisse-moi partir, à devenir qu'un esprit. Est-ce qu'on sait vivre loin de nous, loin d'ici? On s'était dit tant de promesses au début.
On se demandait si tu connaissais, tout le monde connaissait peut-être un peu les propriétés de la terre crue, pourquoi c'est intéressant comme matériau, et peut-être aussi à quoi sert l'enduit avec ce matériau, quelles sont les qualités un peu du matériau. Pourquoi l'utiliser plutôt qu'un autre qui est plus transformé
Ça résiste au feu,
ouais.
De la terre. Ça résiste également aux balles, en temps de guerre. Les balles ne passent pas sur des murs enduits à la terre.
C'est chouette.
Ça, vous savez pas?
Non. Ok.
Voilà, ça résiste, ça rebondit.
Ok.
Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, la chaleur, là, quand ça atténue les conditions météo. Même, j'imagine, pour l'humidité, ça absorbe un peu, non? Ça régule?
Ouais, carrément.
Mais c'est possible de construire une maison uniquement avec de la terre? Et comment ça se fait avec l'étanchéité alors?
Et bien du coup, il y a des règles de mise en œuvre, comme tout plein de matériaux. Par exemple, quand tu fais de l'ossature bois, tu mets pas ta liste d'implantation direct au sol. Ben là, c'est pareil, en terre, il y a une grande règle principale. On dit qu'il faut des bonnes bottes et un bon chapeau. Et donc ça veut dire qu'il faut un soubassement pour éviter qu'il y ait des remontées capillaires et des débords de toit suffisamment grands pour éviter qu'il y ait des infiltrations. Et après, ça dépend aussi des régions et où tu te situes. Il y a des exemples dans le monde où il n'y a pas de toit et les bâtiments sont intercrus et ils vivent très bien. Donc ça dépend aussi un peu de la géographie, la météo, de pas mal de choses. Mais Mais oui, ça peut être très très pérenne et il y a des exemples dans le monde de bâtiments intercrus qui existent depuis des millénaires et qui sont toujours debout.
Et parce que par exemple, si on dit qu'on ne peut pas les mettre dans la salle de bain ou dans des endroits où c'est exposé à l'eau, mais en fait, est-ce qu'une pluie, enfin, genre un endroit où il y a beaucoup de pluie, est-ce qu'on peut avoir vraiment une maison pas étanchéifiée autre que par de la terre à l'extérieur?
Tu peux, si tu as cette histoire de soubassement, okay. Si tu as bien étudié par exemple chez toi en fonction, je ne sais pas si c'est une région très pluvieuse, peut-être que tu vas faire un soubassement plus haut que dans une autre région où il y a moins d'intempéries. Et après, si tu es vraiment très sollicité, ben peut-être au lieu de laisser, par exemple, si tu fais un mur en brique, au lieu de le laisser brut, ben tu peux faire un enduit à la terre dessus. Et c'est lui qui s'érodera en premier. Mmh. Ça ne viendra pas abîmer l'aspect structurel, on va dire, de ton bâtiment. Et peut-être que tous les 5 ans, par exemple, il faudra refaire son enduit. Après, comme beaucoup de choses, en fait, il faut entretenir le bâti, quoi.
En fait, c'est que dans les matériaux industrialisés, on a appris à se dire aujourd'hui, je veux le mettre, mais je veux pas y revenir. Je veux pas, il faut que ce soit, c'est fait et on n'y revient pas. Alors qu'en fait, ancestralement, les enduits, aussi des pratiques beaucoup portées par des femmes, les enduits, dans l'idée d'apporter du soin, de protéger la maison, c'est quelque chose. En fait, on y revient. C'est-à-dire qu'on le fait, mais effectivement, 5 ans plus tard, peut-être on le refait. Mais de toute manière, une peinture, au bout de 5 ans, même une peinture très chimique, au bout d'un moment, ça a vécu, il y a des traces, ça jaunit, etc. Donc, c'est juste, faut aussi pas se dire que ce qu'on fait, c'est absolument là pour tout le temps et on n'y revient pas. Et l'avantage avec la terre et un enduit en terre notamment, c'est qu'on pourrait même se dire, cet enduit, j'en veux plus, je veux le faire autrement, je l'enlève. Je le mouille, je le refais. On peut tout le temps réutiliser la matière si elle n'a pas été stabilisée avec des composants chimiques.
C'est facilement réparable.
C'est facilement réparable. D'entretien. Si jamais il y a un accrochage, un trou, plus on a de couches d'enduit et moins ça se voit, mais on peut très bien le réparer sans que ça fasse une tache comme ça pourrait être plus compliqué à reprendre un enduit en béton ou un enduit à la chaux. Parce que c'est pas du tout les mêmes procédés de séchage et que ça n'a pas la même réversibilité dans le temps. Et les enduits, comme la terre crue, c'est donc un peu tout ce que vous avez dit. C'est un matériau du coup qui a un très faible impact, une très faible énergie grise, parce qu'il n'y a pas du tout de transformation chimique. La transformation qui est opérée, c'est juste le mélange, enfin l'extraction, le transport un petit peu en fonction de là où la terre se situe. Si elle est sur site, il y en a très peu. Et après, pas de transformation, pas de cuisson à part nos mains et les outils, quoi. Ça a une très bonne capacité d'absorption avec l'argile. Donc quand il y a trop d'humidité, l'argile absorbe. Mais pour autant, l'enduit ou le matériau, lui, il ne va pas gonfler, il ne va pas se transformer. Il va juste absorber et restituer quand il n'y a pas assez de vapeur d'eau. C'est pour ça que dans une salle de bain, c'est bien. Dans une douche, non, mais dans une salle de bain, en tout cas sur les murs, plafonds et tout, c'est bien. Quand on n'a pas beaucoup de ventilation naturelle, ça laisse respirer les matériaux entre eux. Donc dans le bâti ancien, c'est ce qui va être vraiment préféré, parce que sur de la pierre ou sur de la brique cuite ou du bois ou de la paille, etc., ça ne va pas emprisonner l'humidité derrière. Et du coup, on va pouvoir laisser les échanges entre les flux intérieurs et les flux extérieurs se faire, là où quand on met des matériaux plus industrialisés, ça coupe l'humidité, elle reste derrière, elle s'accumule et souvent elle dégrade la structure initiale. C'est donc perspirant, on appelle, pour laisser ces échanges de fluides. Et après, c'est réversible, c'est pas toxique, juste se protéger avec un masque, parce que c'est comme tout matériau, il y a des poudres quand même d'argile ou de petits sédiments qui peuvent aller dans le nez, dans la bouche ou quoi. C'est réversible, c'est pas toxique, c'est sans composants chimiques. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aussi c'est possible de le faire avec tout le monde, que même les enfants peuvent vraiment y toucher, que c'est par définition assez inclusif, parce que ce soit avec les mains ou avec des outils ou juste avec les sens, on peut déjà ressentir pas mal de choses et faire beaucoup. même chez soi, du coup, on peut faire des enduits à la main, même si on n'a pas forcément la technique. On essaye, ça craque pas, on refait. Enfin voilà, il y a toujours la possibilité de revenir, en fait. Mm-hmm. Et c'est ça aussi qu'on utilise. Enfin, c'est pour ça que l'enduit est aussi bien, c'est parce que bah, il va protéger, quoi qu'il arrive, il protégera les couches qui sont en dessous. Parce que laisser de la structure totalement apparente, avec le temps, ça s'abîme. Et un enduit, même s'il s'abîme, il vaut mieux que lui s'abîme plutôt que la structure derrière. Donc un enduit, ça protège. C'est vraiment la dernière peau. Et c'est celle qui nous protège aussi. C'est le même principe.
Et voilà, c'est déjà la fin. On remercie une fois de plus Coco qui a passé la journée avec nous pour réaliser la prise de son et les interviews que vous avez entendues. Ainsi que toutes les participantes venues lors de cette journée, sans oublier Lisa qui a co-encadré à nos côtés ce super atelier. Merci également aux organisatrices du festival La Chignole. Une prochaine édition aura très probablement lieu en 2026. Vous pouvez vous tenir informé sur le site du festival lachignole-du6festival.fr. Et enfin, merci à Radio Galère qui nous permet la diffusion de cet épisode sur ses ondes. On vous dit à bientôt, peut-être pour de nouvelles aventures, et n'hésitez pas à venir nous rendre visite à la briqueterie Rat de Terre dans le 11e arrondissement de Marseille, plutôt au printemps quand les températures seront plus favorables à vous recevoir dans les belles conditions. À bientôt!
Je suis une femme, j'ai plein de choses à dire, j'en fais un drame, mais je peux plus mentir. Regarde-moi, j'ai l'air heureuse, juste de ma force pour avoir tout ce que je veux, c'est-à-dire un peu d'estime et de respect. Ouais, 21 pieds, j'ai déjà peur d'y rester. Ouais, j'ai peur d'y rester. Je suis une femme et c'est un drame, faut le dire, faut l'avouer. Peut-être que si tu minimises, c'est que t'as quelque chose à te reprocher. Oh, regarde-moi, je suis comme toi, j'ai de la fierté. Mais toi, tu sais pas quel enfer c'est de vivre sa vie comme un combat contre les hommes non éduqués. Mais j'ai la flemme d'expliquer pourquoi je saigne, de compter les coups que j'ai pris dans l'abdomen et canaliser. J'ai rencontré ce gars qui voulait m'expliquer la vie. Dans un domaine que je connaissais mieux, c'est le souci. Donne-moi ta version, te pose pas de questions. Tu risques de faire avancer le monde. En plus il est vexé, oh non. Je passe pour la peste, évidemment. Avoue que tu empestes l'arrogance. Je suis une femme, un peu d'espoir sinon je fane. Un peu d'écoute sinon je chiale. Un peu d'amour sinon je taille. Je suis une femme, un peu d'espoir sinon je fane. Un peu d'écoute sinon je chiale. Un peu d'amour sinon je taille. Mais j'ai la flemme d'expliquer pourquoi je saigne, de compter les coups que j'ai pris dans l'abdomen et canaliser ma haine pour t'entendre me flatter en faux gentleman. Je te vends de faire des efforts quand moi je fais que ça de la naissance à la mort. Tous ces regards sur mon corps, je connais que la frustration qui le dévore. Pourquoi je saigne de compter les coups que j'ai pris dans l'abdomen et canaliser ma haine pour t'entendre me flatter en faux gentleman.